Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce précieux moment que tu nous donnes dans ta présence, où nous venons de communier, Seigneur Jésus, à ta table, aussi en venant ici à l'Église, selon la parole qui déclare de ne pas abandonner les assemblées. Éternel, maintenant que tu nous as rassemblés, tu as un but précis et tu veux nous parler, et nos cœurs s'apprêtent, Seigneur, à recevoir ce que tu veux déposer. Seigneur, que cela soit comme une semence qui va rencontrer une bonne terre dans nos cœurs et que la parole puisse avoir de l'espace pour croître. Nous passons par des moments difficiles généralisés qui rendent parfois ta parole difficile à pénétrer et à opérer des transformations. Mais nous nous abandonnons encore à la capacité du Saint-Esprit qui lui est censé passer avec nous dans tout ce moment et assurer que notre foi soit préservée. Saint-Esprit, sois donc au-dedans de chaque personne qui va écouter ces messages. Rends-le puissant de ta puissance. Adresse-les selon comme chacun est prédisposé à la recevoir et selon la réalité de chacun. Je m'attends à une adaptation personnalisée de ta part et je veux que tu puisses m'utiliser juste comme un instrument de transmission. Que l'humilité caractérise nos cœurs lorsque nous recevons cette parole et surtout que la joie soit notre à cause de ces choses. Nous nous abandonnons à toi dans la pleine confiance que tu vas nous écouter, que tu vas nous participer et que tu vas nous parler puissamment. C'est dans le nom puissant et précieux du Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons prié. Amen. Bonjour encore, bien-aimés. Nous sommes contents d'avoir cette opportunité pour partager avec vous le message de ces dimanches. Par le nom, je m'appelle Madame Judith Balleroy Sivanziré et je suis servante de Dieu par sa grâce. Et je suis en train ici de remercier le MGC qui m'a donné cette chaire et qui a placé sa confiance en nous pour que nous puissions partager avec vous le message de cet après-midi. Je crois que nous sommes déjà les après-midi. Et je remercie aussi le consistoire qui a validé ce choix porté sur nous. Et nous allons, pendant ces quelques minutes qui nous sont dévolues, partager avec vous la parole de Dieu autour du thème qui m'a été donné, intitulé comme suit. Quand les ciels ouvrent les portes, prier pour réussir. Quand les ciels ouvrent les portes, prier pour réussir. Nous allons développer ces thèmes par une série de textes, mais nous allons d'abord lire deux principaux textes qui seront nôtres cet après-midi. Dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 15, nous allons lire au nom de Jésus 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 15e. Il y avait un homme de Ramathaim Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lihu, fils de Tohu, fils de Touf et Éphratien. Il avait deux femmes. J'attire notre attention sur cet aspect, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les jeunes filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité, de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? 9. Anne s'éleva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. J'attire aussi l'attention sur cela. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » Alléluia. À travers cette portion de lecture, nous allons d'abord restructurer cette histoire de Anne que nous connaissons bien. Beaucoup de gens, en tout cas, la connaissent. J'espère même qu'en dehors même du monde chrétien, c'est une histoire connue de Anne, comme la parole dit, que Dieu avait rendu stérile et qui était acculée par Pénina. Et voilà, c'est un peu cela l'histoire en général, et qui est venue en prière pour demander à Dieu de lui donner un fils, Samuel. Alors, on va directement sortir des Anne jusqu'à nous, et nous allons comprendre que dans la vie, nous avons nous tous des moments difficiles, comme Anne, par lesquels nous sommes déjà peut-être passés, par lesquels nous passons peut-être à présent, ou par lesquels nous passerons pour ceux qui ont besoin d'être avertis. Et pendant ce moment, nous avons nos Pénina et nous avons nos Elkana. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des gens qui se moquent de nous, et d'un autre côté, il y a de Elkana. Et qui est vraiment Elkana? Elkana, c'est cette personne d'abord qui est proche, c'est ses maris dans ces textes comme nous avons lu. Elkana, c'est le mari d'Anne. Un mari aimant qui donne à Anne la valeur malgré qu'Anne n'a pas eu d'enfant. Parce que la Bible déclare que Elkana, c'est lui, au moment d'aller offrir des sacrifices à Dieu, il donne à Anne une double portion. Pourtant, Anne n'a pas d'enfant, mais elle recevait une double portion pour offrir lorsqu'ils seront dans la maison de l'Éternel. Également, il le console de sa stérilité en essayant de lui faire voir que lui, là, sa présence vaut plus que 10 fils pour Anne. Et donc, nous aussi, dans nos moments difficiles, nous avons ces personnes qui sont toujours là, qui sont toujours présentes. C'est-à-dire, lorsqu'il te manque quelque chose, lorsque tu as perdu quelque chose, lorsque tu as besoin de quelque chose, ou lorsque tu passes par des moments compliqués, nous avons toujours ces genres de personnes qui sont là dans notre vie pour nous redonner encore la force. Et souvent, le rôle de ces personnes, c'est d'essayer de combler les vides de ce qui nous manque. C'est d'essayer de combler les vides de ce qu'on n'a pas. Et cela se traduit souvent par leur présence permanente et des qualités. C'est des gens qui sont disponibles. Tu sais que je peux appeler tel à tout moment. Il peut m'aider, elle peut m'aider, elle peut me dépanner, elle peut m'écouter. C'est une personne disponible pour écouter. Il y a aussi ces personnes qui font des actes par leurs moyens matériels. Ils peuvent t'offrir des vacances s'ils sentent que tu es stressé. Ils peuvent t'offrir des sorties, de shopping, si ça dépend de ce qui marche avec toi, ou de moments de détente. Je me rappelle, j'avais une voisine qui, à un moment, avait raté son diplôme. Elle a vraiment pleuré, elle était inconsolable. Et sa sœur, qui l'hébergeait, a décidé qu'elle devait avoir des vacances, un peu pour faire passer sa douleur. Et nous autres, bon, on avait obtenu des diplômes, mais bon, on restait à la maison. C'était pas attrayant. C'est elle, maintenant, qu'on commençait à envier. On se disait, oh, au moins, elle est là, il a ses vacances et tout. Et donc, on a toujours ces genres de personnes qui sont là lorsqu'il te manque quelque chose, lorsque tu as perdu quelque chose, lorsque tu passes par des moments difficiles, il y a ces personnes qui sont comme des Elkana, qui essayent de couvrir ce que tu n'as pas, qui essayent de combler les vides, vraiment par leur présence de qualité. C'est-à-dire, en bref, c'est des personnes qui veulent créer un confort qu'ils mettent en place, un peu pour te faire oublier, en fait, c'est par quoi tu passes. Mais la dure réalité est que ces efforts n'enlèvent pas en réalité notre peine. Ces efforts de la présence de ces personnes, malgré... La Bible dit qu'Elkana aimait Anne. Il a fait tout ça par amour, mais cela n'a pas ôté la douleur qui était dans le cœur d'Anne. C'est-à-dire, on peut avoir ce genre de personnes, mais notre peine, notre chagrin, notre douleur et nos souffrances sont bien présents, malgré ces actes d'amour. Et toutes ces choses viennent que comme nous calmer sur un moment, nous apaiser juste sur une petite durée. Mais la douleur qu'on a, elle est là, elle nous ronge, elle nous consume. Je l'ai toujours observé dans le deuil. Nous avons vraiment des amis qui sont là, qui se mobilisent et qui se disent « Non, non, on doit être là pour tel. Peut-être on va te faire marcher, on va te raconter des histoires, on va essayer de te faire rire. » Mais personne n'ose te demander « Est-ce que ça va ?» Parce que tout le monde sait que vraiment, ça ne va pas. Et donc, la seule chose que ces personnes essaient de faire, c'est d'essayer juste de te remonter le moral. Mais ta réalité, la personne que tu as perdue, le deuil, la douleur liée à cela, c'est bien présent. C'est bien réel, c'est bien rongeur. Et c'est comme ça qu'Elkana qui est en train de dire à Anne, « Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Mais vous allez bien vous rendre compte que la personne qui demande ou qui prétend qu'elle vaut pour Anne plus que 10 fils à une deuxième femme avec laquelle lui, il fait ses fils. Lui, il ne s'est pas contenté de Anne. Il avait quand même une deuxième femme avec laquelle lui, il faisait des fils, mais il veut que Anne, à ce moment-là, puisse se contenter de lui et lui prendre pour mari et pour 10 fils en même temps. Déjà, Anne le partage avec une autre. Mais au-delà de ça, il veut qu'il soit en même temps suffisant comme mari et qu'il vaille 10 fils pour lui. Donc, il y a ce genre de présence aimante, bien sûr, et qui ont tout d'une apparence bienveillante, mais qui viennent juste nous déconnecter de la réalité et ça nous empêche d'agir. Ça nous empêche de prendre de bonnes attitudes. Ça nous empêche de prendre de bonnes orientations. Alors, si notre douleur est encore là, après tout ce qu'on nous fait comme du bien, si nos problèmes restent en place malgré tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour ôter nos douleurs? Qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour aller vers ce que nous souhaitons obtenir? Nous allons avoir une deuxième lecture dans le livre de Marc, chapitre 14. Nous allons lire Marc, chapitre 14, verset 32. Et je vais lire dans le nom de Jésus, 32 à 38. La parole déclare, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. La portion de lecture, c'est encore un homme qui passe par des moments critiques, des moments difficiles, et c'est l'homme de Jésus qui est sur le point de mourir sur la croix. C'est le moment de sa crucifixion qui approche. Et la Bible dit qu'il a pris tous les disciples, le 12, il est allé avec à Gethsémané, mais arrivé là-bas, il les a laissés à un niveau. Il a progressé avec trois autres disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour aller prier. Et il a demandé aux autres, attendez-moi ici le temps que je prierai. Mais ces leaders de tout un groupe, de toute une foule, il éprouve des angoisses et de la tristesse parce qu'il sent sa mort approcher. Et à ce moment, il fait une confidence aux trois disciples avec lesquels il est monté pour prier. Il leur dit, je prouve une tristesse jusqu'à la mort. Veillez et priez avec moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus, il va prier, il va faire une première prière, parce que dans le texte, il a fait 3 à 4 prières. Et il a fini la première prière. Aussitôt fini, il est revenu, il a trouvé que les disciples avec lesquels il est monté étaient déjà endormis. Et ces gens, je ne les ai pas trouvés différents des Elkana. Ces personnes qui voient ta souffrance, qui voient ta tristesse, mais ils ne la partagent pas forcément en termes de ressenti. Ils ne ressentent pas les choses comme toi, tu les ressens. Parce que si c'était eux qui devaient mourir avec Christ, je vous assure, ils n'allaient pas dormir. Mais comme c'est Christ qui devait porter sa propre croix et mourir, alors ce genre, à un moment critique où la mort approche, eux, ils ont trouvé la force de s'endormir. Les Elkana dans ta vie ne ressentiront pas ton problème comme toi tu le ressens. Ils ne verront pas la nécessité de ce que toi tu cherches comme toi tu le vois. Ils ne verront pas la nécessité de ce qui te fait pleurer comme important. Pourquoi ça devrait te faire pleurer? Pourquoi ça devait te déranger autant? Et donc, ils essayent de trouver une mesure de compensation dans ta vie. Qu'est-ce que tu as déjà manqué et que même tu as arrêté de porter en prière parce qu'autour de toi, les gens ont compensé? Qu'est-ce qu'on a déjà compensé et tu as arrêté de vouloir? Tu as arrêté de prier? Tu as arrêté de rechercher? Il y a des gens qui ont tellement raté des diplômes qu'ils ne demandent plus. Avec quoi tu as compensé ce qui te manque? Avec quoi on a compensé autour de toi ce qui te manque? Et donc, ce texte encore est venu nous montrer combien il y a de ces personnes dont leur présence est comme celle d'Elkana auprès de Anne. Leur compréhension de notre situation ne doit pas nous distraire pour ne pas aborder notre situation dans la prière. Amen. Parce que l'Elkana veut nous persuader qu'on n'a pas besoin d'être triste, qu'on n'a pas besoin de ressentir toutes les émotions que nous ressentons, qu'on n'a pas besoin de nous servir de tous ces ressentis. Mais nous, nous devons en réalité nous en servir pour nous plonger dans une prière profonde et transformatrice qui va nous amener au résultat que nous recherchons. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu as dans un coin de ta tête identifié cette situation que tu as déjà laissé tomber. Peut-être même beaucoup, c'est dans l'intercession. Un frère de ta famille qui n'est pas sauvé, pour lequel tu priais, après tu as compensé ça. Je ne sais pas moi, quelque chose qui te manque dans la vie, tu as cherché, tu as dérangé, tu as voulu, tu as essayé, après tu as compensé. Parce que je crois en réalité qu'Elkana ne croyait pas qu'Anne pouvait encore enfanter. Mais Anne est restée sur son mental pour se dire « je peux encore enfanter ». Alors, c'est quoi ton système de pensée par rapport à ce qui te manque jusqu'aujourd'hui? Alors, si tu as trouvé cette situation et que tu as trouvé que c'est que cette situation te concerne, tu vas te dire « oui, je vais prier ». Tu vas te dire « peut-être je n'y parviens pas, les années ont tellement passé ». J'ai tellement vécu le contraire de ce que je veux avoir que je ne parviens même pas à prier. Je vais te donner 4 vérités si tu veux encore te réengager pour reconquérir ce qui te manque en prière. Je vais te donner 4 vérités sur la prière et je prie que si tu peux tout oublier, que tu retiennes au moins une vérité parmi les 4. C'est que la première vérité, c'est que la prière vers laquelle tu veux te réengager pour reconquérir ce qui te manque, c'est une activité spirituelle combattue par la chair. Nous venons de les lire dans le verset 38 où Jésus avertit aux disciples, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est comment? La chair, elle est comment? Alléluia. Donc, lorsque tu veux reconquérir ta vie de prière, comme je dis, il y a tout un système de compensation, peut-être à l'intérieur de toi, peut-être autour de toi, auquel tu t'es déjà habitué. Et quand tu veux encore te redonner à la prière, sache que c'est une activité spirituelle combattue par la chair. Quand je dis spirituelle, c'est-à-dire c'est une activité de l'esprit que la chair combat en toi. En deuxième lieu, une deuxième vérité, c'est que oui, nous ne savons pas prier. Parfois, nous sommes avilis, nous portons le poids de nos problèmes, que tu penses que c'est moi qui ne sais pas prier. Non, il n'y a pas que toi qui ne sais pas prier. Mais collectivement, ou je peux dire en général, nous ne savons pas prier. Parce que la Bible le déclare dans Romains chapitre 8, le verset 26, que je vais paraphraser. La Bible dit qu'en réalité, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Amen. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. Et celui qui est notre intercesseur auprès du Père, et c'est par des soupirs inexprimables qu'il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. En fait, à travers ces versets, j'ai aussi compris que beaucoup de personnes dans le milieu chrétien, surtout les jeunes, ils mobilisent ces versets comme alibi pour ne pas prier, n'est-ce pas? Pour ne pas prier, comment? Si je pose ici la question pour savoir, est-ce que tu pries? Chacun me dira oui. Mais si je pose la question de savoir, est-ce que tu es un prieur? C'est là que je vais commencer à avoir des arguments. Unaombaka ndio komombaji. C'est là que je vais commencer à voir, ah non, tu vois, nous autres là, on prie Dieu, il nous écoute. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi vous voulez en faire trop. D'accord? Il y a ce genre de courant qui existe et vous allez entendre des jeunes chrétiens qui vous disent, mais on prie Dieu, il nous entend. D'ailleurs, même avant de parler, d'ailleurs, vous en faites trop. Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin et tout, n'est-ce pas? Alors, je viens répondre à ça pour dire, oui, nous ne savons pas prier, mais nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à prier et devenir de prière, de prieur. Batu ya maombi, en fait. Et ça nous amène à la troisième réalité. La troisième vérité, c'est que nous pouvons apprendre à prier. Nous pouvons apprendre à prier, soit nous exercer à la prière. Nous allons le trouver dans Luc chapitre 11, le verset 1er, et dans Matthieu chapitre 6. Dans Luc chapitre 11, le verset 1er, la Bible parle d'un disciple qui voit Jésus prier. Et lorsque Jésus finit de prier, il lui dit, « Maître, enseigne-nous comment il faut prier. » Et Jésus lui répond, il lui dit, « Voici comment vous devez prier. » Et il présente là-bas le Notre Père. Mais lorsqu'il finit de présenter le Notre Père, il leur donne une parabole d'une personne qui a reçu notamment un visiteur et il fallait qu'il lui serve à manger. Et cette personne a dû aller chez son ami qui est son voisin pour lui demander un peu de farine et tout le nécessaire pour faire la nourriture pour son visiteur. La Bible dit qu'il a insisté, mais son ami a refusé de se mettre debout parce que c'était la nuit. Mais comme il a continué d'insister, cet ami a fini par se réveiller et lui donner ce dont il avait besoin. Par ce verset et par Matthieu 6:6, le Seigneur nous apprend comment prier. D'abord à travers le Notre Père, nous avons suivi ici dans les séances passées la structure spirituelle et l'essence même spirituelle de cette prière, le Notre Père. Mais aussi nous avons, par ces versets de Luc 11:1, compris que Jésus veut nous apprendre la persévérance dans la prière. Nous devons prier avec insistance, avec persévérance, venir et revenir dans la présence de Dieu pour lui dire ce que nous avons déjà dit. Amen. Dans Matthieu 6:6, il présente l'intimité dans la prière. Lorsqu'il dit, tu vas dans ta chambre intérieure, tu vas fermer la porte, tu vas parler à ton Père qui est dans les secrets. Et là-bas, en fait, nous allons trouver un niveau d'intimité dans la prière. Lorsque nous voulons apprendre à prier, il y a un niveau que nous devons atteindre, le niveau de l'intimité dans la prière. Parce que le secret qui est exprimé ici dans Matthieu 6, ce n'est pas juste les secrets par rapport à une pièce. Déjà, avec nos maisons, c'est difficile. On peut, quoi que tu fasses, à moins que tu pries sans faire sortir de mots, on peut facilement t'entendre. Mais l'intimité ici, l'autre niveau de l'intimité auquel ce verset fait allusion, c'est le secret de ton cœur. Jésus veut que quand tu arrives au-devant de lui, que tu lui dises les choses enfouies, les choses vraies. Les choses que peut-être nous, tu ne peux pas nous les répéter ici à la chair, mais tu ne peux les dire que devant lui. Il veut que tu lui dises ta situation comme tu la ressens, comme tu la vis, comme elle t'impacte. Parce que nous sommes habitués à une prière structurelle, en fait. Bon, tu chombia ba gonjwa, tu nombia puski aleo, tu nombia na inchie, tout. Amen. Amen. C'est encore un niveau de prière structurelle. Mais quand Jésus nous apprend à prier, il veut que nous arrivions à ce niveau d'intimité où tu peux lui dire, Seigneur, j'ai une journée chargée, mon boss a mis vraiment de la pression sur moi, que je n'ai pas d'appétit pour prendre ces repas, et donc vraiment j'aimerais que tu me soulages le temps que je prends ces repas. Tu lui dis les choses telles que tu le ressens et telles que tu en as besoin. Il y a des gens qui se sentent tellement matures pour Dieu pour lui dire qu'il n'y a quoi besoin à 10 dollars. Il pense que, bon, Mais des gens qui, vraiment, ça te dérange, tu es en délai limite, tu as besoin de 10 dollars. Mais entrer en prière pour dire ça à Dieu, j'ai besoin d'un 10 dollars. C'est ce niveau-là d'intimité, je veux dire, de clarté, en fait, que Dieu attend. C'est lorsqu'il dit, parle à ton Père dans les secrets, de ces choses qui sont vraiment personnelles pour toi. C'est ces choses-là qu'il veut entendre, la dimension de l'intimité dans la prière lorsque nous apprenons à prier. Il y a aussi ce que j'ai appelé ça la circonspection. Parce qu'il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, car votre Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi vous avez besoin. Ça semble se contredire avec ce que je venais de dire lorsque tu dois parler à Dieu de ton ressenti. Mais c'est encore un appel qui nous amène à parler avec Dieu dans une dimension de respect. J'ai aimé ce que l'officiant a dit, au-delà d'adorer Dieu, je dois respecter Dieu. D'accord? C'est-à-dire, si tu es dans sa toute présence, tu ne vas pas aller dans tous les sens. Tu viens et tu présentes à Dieu ce que tu as à dire dans une attitude de respect, de révérence. Et là, tu choisis tes mots. Et là, tu choisis vraiment la façon dont tu vas t'adresser à Dieu et ne pas multiplier de vaines paroles. Alléluia. Quatrième vérité et qui est la plus dure, c'est que mal prier empêchera notre exaucement. Amen. Alors, je sais, cette quatrième vérité vient répondre à ceux qui se disent, pourquoi prier? Déjà, on ne sait pas prier. Déjà, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Pourquoi? C'est que mal prier empêchera notre exaucement. Et nous allons lire cela dans les livres de Jacques, chapitre 4, le troisième verset. Jacques, chapitre 4, le troisième verset. La parole déclare, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans les buts de satisfaire. » Quoi? Merci. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est-à-dire, Dieu tient à ce que nous sachions prier pour qu'il soit à mesure de nous exaucer. Amen. Si la parole dit que nous ne savons pas prier, mais que nous prions encore mal et que nous ne sommes pas exaucés, ça veut dire que mal prier peut t'empêcher de recevoir ton exaucement. Parce que si Dieu savait que nous ne savons pas prier, il prendrait lui-même la peine de voir tes besoins et lui-même, il commence à y répondre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il a besoin de cette relation d'aller et retour où toi tu pries et lui, il répond. Et Pourtant, quand nous prions mal, il ne nous exauce pas. Nous devons donc nous exercer, bien-aimés, à la prière, savoir comment prier, en nous associant avec nos aînés dans la foi, tout ce que le Saint-Esprit va t'inspirer. Une autre chose, c'est que si Jésus savait que malgré tout ce qu'il ferait, il nous enseignerait à prier, nous ne savons pas prier de nature. Lorsque ses disciples est venu lui dire « Enseigne-nous à prier », il lui aurait dit « Laisse ça, vous ne savez pas prier de toute façon, moi je saurais comment faire. » Mais il a pris la peine de commencer à enseigner à ses disciples comment prier. Donc nous ne devons pas rester dans l'état pristine pour nous dire « La Bible dit, nous ne savons pas prier ». Cela est un appel pour apprendre justement à prier en vue de provoquer notre exaucement. Rapidement, je vais parler de bénéfices de la prière. Je vais te dire par rapport aux bénéfices de la prière que prier te fera payer un prix. Alléluia. Le bénéfice suppose que tu ailles des intrants, que tu as un capital investi. C'est là que tu auras un bénéfice. Et donc, le bénéfice de la prière te demandera de payer un prix capital. C'est celui de briser ton confort. Alléluia. Comme je dis, c'est une activité spirituelle que ta chair combat. Prier, tu auras le besoin de prier, le sommeil va te réclamer. Tu auras le besoin de prier, les amis vont t'appeler et c'est important. Tu auras besoin de prier... La famille sera en dispute, tu vas ressentir des mauvaises énergies. Mais au milieu de tout cet environnement, tu dois créer un environnement propice pour la prière. Et c'est le prix à payer de sortir de ton confort. Parfois, c'est te réveiller nuitamment au milieu de la nuit et commencer à prier. Parfois, c'est mettre à côté un film que tu aurais bien voulu finir et aller te consacrer à la prière. Parfois, ça veut dire te retirer des massolos et des bonnes causeries. Je ne dis pas que des mauvais. De bonnes choses, en fait, pour pouvoir avoir ce moment de prière. Mais je te garantis que prier va te construire un confort encore plus durable que celui que tu as dû briser pour entrer en prière. Amen. Nous ne prions pas. Il y a un deuxième bénéfice pour faire du bien à Dieu. C'est à nous que la prière profite. Amen. Là, c'est dans Jean chapitre 16, verset 24, Christ est en train de dire à ses disciples, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Demandez en mon nom, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Donc, quand tu pries, ce n'est pas le cœur de Dieu que tu réjouis là. Quand tu pries, c'est toi qui retires une satisfaction. C'est toi qui retire la joie, la paix, le confort de ce moment de prière. Et je vais conclure ce message en te lisant ces textes pour renforcer ce que je venais de te dire en termes de bénéfices de la prière. Ce que la prière, en fait, c'est ces dialogues que nous faisons dans la présence de Dieu. Comme je vous ai dit, vous parlez, vous dites ce qui est personnel et vrai. Et lorsque nous y entrons chargés de problèmes et de soucis et de souffrances qui nous tourmentent et que nous commençons à exprimer nos problèmes devant la toute-puissance de Dieu, nous minimisons l'impact de nos préoccupations sur nous. Nous minimisons les effets qu'ont nos problèmes sur notre mental, sur notre bien-être, en fait. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, nous nous rendons compte de la grandeur et la suffisance de sa présence, que nous commençons à regarder nos problèmes en miniature. Nos problèmes deviennent minimisés dans la présence de Dieu. De ces faits, nous ressortons de la prière avec une plus ferme assurance. Quelle assurance? Une assurance qu'une plus haute hiérarchie, en puissance et en autorité, et saisie de notre problème, que ce soit un problème de santé, un problème de chômage, un problème de menace, de divorce, de mort, d'avortement, un problème d'affection psychologique. Et parce que nous amenons tout ça dans la toute présence de Dieu, la paix de Dieu remplit du coup notre cœur. Parce qu'on vous dit que chaque année, Anne ne mangeait pas et elle ne buvait pas pendant ces moments d'aller offrir de sacrifices parce que il y avait toujours Pénina qui lui rappelait qu'encore une autre année vient de se finir, tu es stérile. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a quitté Élie dans le temple, elle mangea et elle buva. Pas parce qu'elle venait de recevoir sa réponse, mais parce qu'elle venait de se décharger dans la présence de son Dieu. Alors, ce n'est pas parce que nous avons prié, ce n'est pas que demander à Dieu en prière va impliquer de recevoir ce que tu as demandé. Mais Dieu reste souverain. Mais dans tout ça, quelle que soit sa réponse à notre prière, Dieu assure à notre cœur une tranquillité et une joie parfaite. Donc même si le Seigneur dira non à ce que tu demandes, même s'il ne te donnera pas ce que tu as demandé, il va t'envoyer ses noms accompagnés d'une paix qui va te permettre de recevoir ses noms en paix. Et tu vas rester tranquille. C'est pourquoi dans l'adversité comme dans le temps présent, le chrétien est trouvé serein, tranquille, apaisé. Malgré les échecs, la crise, le chômage, les impayés, la pression sociale et toute forme de tempête. À nos finalistes, peut-être la réponse de Dieu ne sera pas « oui, tu l'as ». Mais aie un cœur disposé à recevoir toute la réponse de Dieu avec la paix avec laquelle il accompagne sa réponse. Amen. C'est ici donc une invitation à désirer de nous approcher de Dieu par la prière, à désirer forger une intimité avec Dieu. Une intimité qui dépasse la simple prière où tu viens présenter tes besoins à Dieu, mais une intimité qui fait de Dieu et de sa présence ton besoin ultime. Tu veux juste être avec Dieu, tu veux juste être à ses côtés. Ton besoin ultime de chaque jour est que tu recherches continuellement. Parce que si tu l'as fait ainsi, la prière ne sera pas pour toi un fardeau, mais un moment approprié, un moment que tu seras en train de cultiver au jour le jour, un moment spontané, des moments que tu crées par envie, par vouloir et par désir d'être avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai entendu un jour quelque part, on disait qu'on ne peut pas parler de la prière sans prier. Amen. Parce que si c'est de la foi à l'action, comme notre thème de cette année, alors si nous attendons parler de la prière, c'est que nous devons prier. Et tu vas aller déterrer des souvenirs difficiles, ces choses que tu as déjà gardées dans un coin de ta tête pour lesquelles tu as arrêté de prier, ces choses que tu as compensées avec les amis, ces choses que tu as compensées avec les réseaux sociaux, ces choses que tu as compensées avec l'excès des tables, toutes ces choses en fait que tu as déjà eu à compenser, pour lesquelles tu as arrêté de prier, tu vas revenir vers Dieu et tu vas dire « Dieu, je suis là ». Ces échecs que tu as déjà normalisés, tu vas les anormaliser et tu vas rentrer en prière. Tu vas accuser ta situation dans la présence de Dieu et dire à Dieu, je reconnais avoir compensé telle situation avec telle situation. Mais maintenant, je reviens en prière, je viens me dépouiller, je viens me laisser à toi. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh. Emmanuel est toujours présent à ma cause. Emmanuel, oh, Emmanuel, ah, Emmanuel est toujours présent. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel. Emmanuel, toujours prêt dans ma dépression. Alléluia. Tu sais combler mon cœur dans l'humiliation, dans l'humiliation. Tu es l'ami de tout et même dans ma solitude. Tu as comblé tout mon cœur, Emmanuel, Emmanuel, toujours présent à ma Même si les amis m'abandonnaient, le parent m'est rejeté, ma famille m'abandonnait, tu es toujours présent, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, ah, Emmanuel. Tu vas prier en te rendant compte qu'il a été toujours présent. Tu vas te rendre compte que c'est toi qui as gardé ses besoins. C'est toi qui as cessé de prier. Pourtant, lui, il t'a fait survivre à des situations qui t'oppressent, qui te mettent la pression. Seigneur Jésus, nous voulons venir ressasser des souvenirs difficiles. Nous voulons venir réveiller ces situations que nous avons laissées gire et s'endormir dans nos vies, comme de cadavres que nous traversons chaque matin pour vaquer à nos occupations. Jésus, nous avons des besoins que nous t'avons présentés. Nous avons secoué, nous avons dérangé, nous avons demandé, nous n'avons pas obtenu. Un moment, nous avons commencé à compenser. Un moment, nous nous sommes dit, on arrête d'abord de prier, on passe à autre chose. Mais ce matin, tu viens nous rappeler la puissance de la prière, celle qui est transformatrice, celle qui va nous permettre de provoquer, Seigneur Jésus, ton exaucement. Tu veux que nous croissions dans la prière, que nous sortons de l'état de bébé, que nous puissions croître, que nous puissions désirer comme des petits enfants les laits spirituels qui nous poussent à la croissance. La prière, la méditation, la communion et toutes ces choses. Éternel Dieu, Saint-Esprit, je prie pour mon frère et ma sœur qui est ici en ces lieux. Tu connais sa difficulté. Seigneur, d'autres ont accumulé des échecs dans plusieurs domaines de la vie en même temps. D'autres en font des surplaces comme des blocages dans leur vie. Ils ont commencé à se contenter, Seigneur Jésus, de ces stades de la vie. Pourtant, leur cœur désire passer à autre chose. Pourtant, leur cœur désire une autre dimension. Et ils ont arrêté de demander. Ils ont arrêté de le vouloir. Mais Jésus, je viens déclarer ce matin que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Nous allons vers un autre cap. Lorsque nous te prions cet après-midi, tu nous exauces. Tu nous exauces du haut des cieux. Car tu ne tardes pas. Car tu ne tardes pas, tu es toujours là pour notre cause, tu es toujours là pour nous défendre. Enlève la honte dans la vie de quelqu'un qui a courbé sa tête et qui a accepté que la honte s'écoule à sa vie, que l'opprobre soit collé à son histoire, que la médisance soit collée à sa réputation. Mais Jésus, je veux que tu relèves encore quelqu'un, que quelqu'un se considère comme une guerrière, comme un guerrier dans la prière, que quelqu'un s'acharne et refuse la situation qui a longtemps pris de racine dans sa vie. Et que quelqu'un soit en train de se dire c'est assez, c'est assez. Que quelqu'un déverse son amertume dans ta présence maintenant et que tu le coûtes, Éternel. Que quelqu'un ouvre son cœur, que quelqu'un fasse sortir ses douleurs et qu'il reçoive en retour ta paix et qu'il reçoive en retour ta tranquillité et qu'il reçoive en retour, Seigneur Jésus, ta réponse et ton exaucement. Tu es à mesure de le faire et nous croyons en ta capacité de le faire. Je vais appeler le pasteur Fiston pour la suite de la prière. Nous allons continuer à mettre cette parole en action par un moment de prière qui sera conduit par les pasteurs en faveur de nos finalistes.
Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Le thème de cet après-midi nous dit que le ciel s'ouvre. Quand le ciel ouvre les portes, il faut prier pour réussir. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être là. Le Seigneur a donné la grâce pour certains d'entre nous d'être des finalistes. C'est le ciel qui s'est ouvert à leur faveur. C'est une grâce d'être en sixième année. C'est une grâce d'être candidat aux examens d'État. Et quand le ciel a ouvert les portes, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier et demandez la grâce de Dieu à votre faveur. Cette prière que nous voulons faire, nous allons inviter les serviteurs de Dieu, les anciens de l'Église, les révérends pasteurs, Lusenge, qui sont là, qui ont choisi de prendre ce temps afin de pouvoir recommander tous les finalistes entre les mains de Dieu. Nous savons que le Seigneur a donné la grâce à permettre qu'il y ait parmi nous des enfants, des jeunes qui vont présenter les examens des temps. Je vais devoir inviter les serviteurs de Dieu qui vont s'avancer, qui vont entourer la chair. Les serviteurs de Dieu vont se tenir autour de cette chair. Et si tu es là et que la grâce t'a été donnée d'être candidat aux examens des temps, c'est le ciel qui s'ouvre pour toi. Tu vas venir, nous allons prier le Seigneur à ta faveur. Les invités de Dieu sont venus afin de pouvoir prendre ces moments de prier. Si vous êtes là, vous allez vous avancer ici devant et vous allez monter à la chair pour que nous puissions prier ensemble avec toi. Je vais d'abord voir les finalistes qui sont là, qui vont s'avancer. Après, je vais dire qui va les rejoindre ici devant. Le Seigneur qui vous a donné la grâce d'aller jusqu'à sixième, il est celui que nous sommes venus implorer pour que cette année soit une année de témoignage pour vous. Ça peut arriver aussi que vous n'êtes pas finaliste, mais vous avez un frère, vous avez une sœur qui est finaliste et vous attendez que le Seigneur fasse un miracle pour lui. Vous êtes peut-être parent, vous êtes petit frère, petite sœur. Vous allez vous avancer ici devant. Je vais demander à ceux qui sont ici devant, vous allez prendre une position d'humilité. Vous allez devoir vous mettre à genoux pour prier et demander la grâce de Dieu. Le pasteur est en train de vous donner un stylo. C'est un signe de foi que nous vous donnons ce stylo. Nous prions que le Seigneur qui vous a amené jusque dans cette classe-là, qui vous donne la grâce. Il y a de l'espace ici. Ne vous coincez pas. Il y a de l'espace ici. Rassurez-vous que vous êtes à la chair. Ne soyez pas au bord. Rassurez-vous. Il y a de la place ici. Il y a de la place ici. Quand les portes du ciel s'ouvrent, prenez le temps de prier pour la réussite. Il est possible d'aller à sixième, mais comprenez que quitter la sixième année, c'est encore une grâce que vous devez demander à Dieu. Pendant que nous serons en train de prier, vous allez vous rappeler que les invités de Dieu qui sont autour de vous, ils ont été des finalistes comme vous. Le Seigneur leur a accordé grâce, ils ont réussi, ils ont fini. Nous avons été des finalistes. Nous avons été dans des moments où nous avons dit « Comment ça va se passer ?» Le Seigneur nous a donné la grâce. Et nous avons réussi. Na upenda msalaba huu, nguvu zake zanipa kushinda. Msalaba na uku. Hata nitakapopa, na upenda msalaba huu, nguvu zake zanipa kushinda. Musalaba na ukumbatia, hata nitakapopa, zoruba, zoruba na mawimbi, na upepo wavuma, niongoze Bwana, nivuke ngambo, zoruba, zoruba na mawimbi, na upepo wavuma, utuongoze Bwana, tuvuke ngambo. Nous allons prier. le Seigneur qui t'a amené jusqu'à sixième année. Il est celui qui va t'accorder la grâce. Le Seigneur qui a amené ton frère, ta sœur jusqu'à dans cette classe. Il est celui qui va offrir aussi la grâce pour que tu puisses recevoir ce que tu entends de lui. Commence à dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Donne à Dieu de te donner d'être stable, de faire de toi une personne stable. Et pendant que tu entres dans l'examen, que tu ne paniques pas, que tu saches que c'est un examen dans lequel tu vas voir la main de Dieu, dans lequel tu vas voir Dieu t'accompagner. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dis à Dieu, je veux que tu me donnes la force qu'il me faut pour affronter cet examen. Je vais aller avec la force que tu me donnes, parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu vas agir, je sais que tu prends plein contrôle de toutes choses. Demande à Dieu de t'accorder la grâce, de rester serein, de ne pas être déstabilisé, de rester concentré dans le travail que tu dois faire pendant cette semaine. Le Seigneur te rendra capable d'être debout comme une personne affermie devant les questions. Et le Seigneur va t'accorder la grâce de bien travailler. Demande à lui de te donner cette possibilité de te tenir devant lui, de te tenir devant lui et de rester permanemment devant lui pendant cette période d'examen. Il ne faut pas que le diable trouve de la place dans ta vie. Demande à Dieu de te donner la grâce, de rester sensible à ta volonté. Même pendant l'examen, tu as besoin de la grâce, de rester sensible. Tu as besoin d'une sensibilité à la voix du Saint-Esprit, même pendant que tu seras en train de faire l'examen. Prie que le Seigneur accorde la grâce à ses frères, à ses sœurs que tu es venu représenter, afin que le Saint-Esprit lui communique la volonté de Dieu même pendant l'examen. Seigneur, nous savons que c'est toi qui accordes la faveur et la grâce à tes enfants. Tu renouvelles la force de ceux-là qui se sentent faibles. Tu donnes la force et la possibilité à ceux-là qui se sentent faibles, à ceux-là qui s'humilient devant toi, Seigneur. Tu leur accordes grâce et faveur. Gloire te soit rendue parce que tu écoutes la prière de chacun de nous cet après-midi. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu la grâce de la bonne santé pendant la période d'examen. Tu as besoin de la santé. Tu as besoin aussi de bon climat. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce, que nous soyons en bonne santé, que nos enfants soient en bonne santé, que nos frères soient en bonne santé. Pendant cette période d'examen, nous voulons voir tout le monde aller à l'école en bonne santé. Prions aussi pour le climat autour de nous. Que les choses se passent bien. Que les choses se passent bien. Nous avons besoin de la paix. Nous avons aussi besoin d'un climat qui nous permettra d'aller et de rentrer chaque jour de l'examen. Demandons à Dieu la grâce d'être là. Seigneur, nous avons besoin de l'encender pour tes enfants qui vont partir faire l'examen. Nous avons besoin, Seigneur, que tu leur accordes la force qu'il leur faut. À ceux-là qui sont malades, Seigneur Dieu, nous prions que tu les guérisses dans le nom de Jésus. Que tu les rencontres et que tu touches leur corps, afin qu'ils soient stables avant d'affronter les examens. Nous avons aussi besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix autour de nous, de la paix dans cette ville, de la paix dans toute la République. Afin que pendant cette période d'examen, Seigneur Dieu, les choses se passent pour la gloire de ton nom. Nous avons aussi besoin, Seigneur Dieu, d'un bon climat. Un climat qui permettra à tes enfants de quitter les domiciles, d'arriver à paix et de rentrer dans un bon climat que toi-même tu vas offrir. Si toute l'étendue de la République, Seigneur Dieu, permet un climat favorable pour la passation des examens d'État. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es là, tu agis. Je vais devoir inviter les serviteurs de Dieu. Révérend Lusenge, il va prier pour nous tous. Il va solliciter la grâce de Dieu pour votre réussite.
Avant de clôturer par cette prière, je voudrais vous rappeler que les bics que vous avez reçus ne sont pas des bics magiques. Ce sont des bics qui sont les symboles de l'intervention de Dieu dans votre vie pendant que vous faites l'examen. Les bics magiques, ceux qui les reçoivent ont confiance au BIC. Mais nous, nous avons confiance au Dieu qui inspire celui qui utilise les bics. Amen. Amen. Ne mettez pas votre confiance dans les bics, mais mettez votre confiance dans le Seigneur, l'Éternel Dieu qui utilise et inspire celui qui utilise les bics. Ça, c'est la première grande chose que vous devez savoir. Ça veut dire que ces bics peuvent bloquer et ne pas continuer à écrire pendant que vous écrivez, mais vous allez utiliser un autre bic. Vous n'avez pas changé. C'est lui qui inspire, c'est lui qui utilise les bics. Vous avez seulement changé de stylo. C'est lui qui utilise, c'est lui qui inspire, c'est lui qui utilise les bics. Va inspirer ta pensée, ton intelligence avec n'importe quel bic. C'est ce qui fait la différence entre les bics que vous détenez entre vos mains et les bics magiques qu'on distribue à ceux-là qui fréquentent les marabouts. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne la grâce de décrocher votre diplôme. Prions encore. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous connais. Nous te disons merci parce que tu es Dieu avec nous. Nous te disons merci parce que tu nous précèdes dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous désirons avoir. Tu as permis à ses frères et sœurs d'arriver jusqu'en sixième. Malgré les difficultés par lesquelles nous sommes passés pendant la période de guerre et consorts, tu as voulu que nous puissions être vivants jusqu'aujourd'hui. Tu as voulu que notre frère, notre sœur soit encore vivant jusqu'aujourd'hui. Tu as permis que nous puissions être en bonne santé aujourd'hui. Tu as permis que nous puissions être prêts à aller affronter les examens d'État demain. Nous savons que nous sommes faibles. Nous n'avons pas suffisamment d'intelligence pour affronter ces examens et réussir. Mais nous voulons compter, non pas sur notre capacité, mais sur ton pouvoir, ta capacité de nous accorder le succès sans que nous puissions le mériter. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'expérimenter encore ton amour d'une manière nouvelle. Nous avons besoin d'expérimenter ta proximité dans notre vie, où nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit nous rassurer en nous disant « N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Je te délivrerai. Je te ferai expérimenter le succès et la réussite. » Tout ce que tu sais que nous demandons en faveur de nos frères et sœurs, Seigneur, c'est le diplôme de chacun d'entre eux. Nous prions que chacun décroche son diplôme cette année. C'est pas eux qui vont décrocher des diplômes, mais c'est toi qui vas décrocher les diplômes pour chacun d'entre eux. Et c'est ce que nous demandons. Nous voulons revenir ici après la proclamation des résultats pour te dire merci Seigneur parce que tu as écouté notre prière. Nous nous tenons dans ce temple, un lieu où tu as dit que lorsque nous aurons des besoins à exposer à toi, nous viendrons ici. Et toute prière qui sera faite en ces lieux, tu as promis Seigneur d'ouvrir tes oreilles pour les écouter, pour écouter et exaucer la prière qui sera faite en ces lieux. Seigneur, c'est du haut de ta chair que nous implorons ta grâce pour la réussite de ses sœurs, pour la réussite de ses frères, pour la réussite de ses garçons, pour la réussite de cette fille, de manière singulière, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et tu as dit, parce que tu écoutes, tout le monde viendra à toi. Accepte que ce soit une voie par laquelle tu vas attirer plusieurs à toi parce qu'ils sauront que nous avons un Dieu qui écoute la prière et qui l'exauce. Merci parce que tu as béni les familles et les différentes familles représentées ici qui ont eu la possibilité d'amener leurs enfants jusqu'en sixième et de s'acquitter de tous les devoirs et les responsabilités qui pourraient faire qu'ils puissent être acceptés à passer les examens. Bénis-les, Seigneur. Fais que leur joie soit comblée lorsqu'ils verront que l'objectif de leurs efforts a été atteint par ta grâce dans ta toute puissance. Merci Seigneur parce que tu vas accompagner ces frères et sœurs durant tous les temps des examens. Nous avons besoin de ta protection sur eux pour qu'aucun accident ne soit mentionné sur quelqu'un parmi eux. Pour qu'aucun incident, Seigneur, ne puisse arriver à un d'entre eux. Accepte, Seigneur, de les garder sains et saufs jusqu'à la fin de ces examens. Nous voulons prier pour les correcteurs. Accepte, Seigneur, qu'après avoir fait les examens, ils puissent avoir de l'assurance que tu es intervenu et que tu continueras d'intervenir jusqu'à la proclamation. Qu'aucune erreur ne soit commise par ceux-là qui ont la charge de corriger leurs copies. Accepte que leurs copies parviennent sous les yeux des correcteurs, sous une nouvelle aune, sous la lumière qui vient de toi. Qu'ils soient éclairés et qu'ils voient tout ce qui y a été écrit sur le papier avec des lunettes qui sont tes propres lunettes, Seigneur Dieu. Nous voulons que tu leur accordes le succès et la réussite par toutes les voies que tu sais être des voies qui pourront honorer ton nom. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as rassurés que tu as répondu. Et à cause de cela, nous pouvons acclamer avec beaucoup de joie parce que tu as exaucé nos prières et que nous allons avoir beaucoup de réussites parmi ceux-là qui sont présents ici aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu as écouté notre prière. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as comblés de beaucoup de diplômes. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup. Vous allez vous mettre debout. Bonne chance et que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à Dieu qui a ouvert les ciels pour nous et nous bénissons grandement le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup cette parole de Dieu qui nous dit que lorsque nous avons prié au nom de Jésus-Christ, soyons rassurés que nous avons déjà ce que nous avons demandé. J'ai aimé vraiment la parole de Dieu et je prie que le Seigneur amène Maman Judith très loin parce que sa présence ici, sa manière de prêcher, c'est pour moi une preuve vraiment palpable que la place de la femme vraiment, c'est pas à la cuisine. Une femme peut bénir encore énormément au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous connaissons. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons reçu vraiment cet appel à la prière. Bien sûr que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Les choses ont totalement changé. Et elle était en train de nous dire encore, dans ce qu'elle était en train de dire, de ne pas chercher la solution ailleurs, parce que c'est Dieu seul qui est cette grande solution que nous cherchons. Arrête de partir chercher les amis, mais reviens encore une fois en Jésus-Christ, tu auras ce que ton cœur désire. Amen.